Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Chindadi Kambala.
Aimé Boji, élu de Walungo Sud Kivu, désigné officiellement comme candidat unique de l'Union Sacrée pour succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Selon André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique de la majorité au pouvoir, ce choix est le résultat d'un consensus autour de l'autorité morale de l'Union Sacrée, Félix Tshisekedi. Les acteurs politiques et humanitaires de plus de 50 pays africains se réunissent à partir de ce jeudi 30 octobre à Paris en France. Pour Rémi Maréchaux, ambassadeur de France à RDC, qui est l'invité de ce journal, cette conférence va resensibiliser la communauté internationale sur la guerre dans l'est de la RDC. Et pour Patrick Mouyaya, cette rencontre permettra de prendre en compte le volet humanitaire qui n'est pas repris dans les négociations de Washington et de Doha. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin. Le député national Aimé Boji, élu de Walungu au Sud Kivu, désigné officiellement comme candidat unique de l'Union Sacrée pour succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Annonce faite ce mercredi par André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique de la majorité au pouvoir. S'exprimant devant la presse, André Mbata affirme que ce choix est le résultat des consensus autour de l'autorité de référence de la plateforme, à savoir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il dit également avoir organisé des concertations avec les membres du Présidium de l'Union Sacrée et les 11 autres députés qui avaient exprimé l'ambition de briguer ce poste. On écoute André Mbata au micro de Grâce Hamzati.
L'honorable Boji Sangara Aimé est donc à partir de cet instant le candidat de l'Union Sacrée de la Nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique, c'est le candidat de notre famille politique. Et les différents au niveau de la plateforme présidentielle, ceux qui cherchent des problèmes ou des factures qui les gardent du mauvais côté de l'histoire où ils se trouvent, il n'y en aura pas de notre côté, du bon côté de l'histoire. Et tous les candidats, sportivement comme il se devait d'ailleurs, d'après nos textes, d'après le règlement intérieur, d'après nos actes d'engagement et nos actes de loyauté, tous les candidats que j'ai reçus comme secrétaire permanent, sous demande de la haute autorité politique, tous les candidats se sont engagés à soutenir le candidat de la majorité, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul candidat. Donc ça c'est au niveau politique. Le reste maintenant, ça va suivre son cours au niveau de l'Assemblée nationale.
Restons à l'Assemblée nationale pour vous signaler que les agents et cadres administratifs de cette institution étatique sont désormais appelés à reprendre les activités avec quiétude après plusieurs semaines de grève. C'est le message lancé par le bureau de la Chambre basse du Parlement et le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui a échangé avec les grévistes mardi à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, il a été décidé de la mise en place d'une commission tripartite gouvernement, Assemblée nationale et délégation syndicale du personnel administratif censé résoudre une fois pour toutes les revendications de ces agents, notamment l'amélioration de leur enveloppe salariale, tout en remerciant le ministre Liao pour son implication afin de dénouer cette crise. Le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbay, invite ses administratifs à une franche collaboration. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati.
Il faut dire aussi que la grève du personnel administratif est aussi intervenue du fait de beaucoup de malentendus, des choses qui n'ont pas été bien expliquées et bien comprises. Il s'agit de revendications relatives à l'augmentation de salaire, une situation qui a été discutée en temps réel avec le gouvernement de la République qui a formulé des propositions, des réponses qui nous avancent déjà à bien des égards. Il a été notamment noté que nous sommes sommes en pleine session budgétaire. Il est de ces questions qui ont déjà commencé à trouver des solutions sur plusieurs demandes du personnel administratif et d'autres le seront dans le cadre de la nouvelle loi des finances de l'année 2026 et que la mesure préventive prise dans le but de sécuriser les installations de l'Assemblée nationale a été en même temps levée pour permettre au personnel administratif de pouvoir vaguer à ses occupations, chacun à sa tâche, afin que nous accompagnions avec calme et bravoure les tâches qui nous attendent, notamment ce que tout le monde attend de nous en cette période précise, c'est le budget.
Alors qu'une motion de défiance contre les gouverneurs des provinces a été déposée mardi dernier à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, 7 députés provinciaux qualifiant sa gestion d'opaque, ça bouge également du côté du Sud-Ubangi où une crise politique secoue l'hémicycle. Les membres de l'Assemblée provinciale ainsi que le gouverneur du Sud-Ubangi sont d'ailleurs invités à Kinshasa par les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Jacmel Chabani l'a fait savoir dans un télégramme adressé mardi aux concernés. C'est à l'issue d'une motion de défiance contre le gouverneur Miché Mobonga déposée lundi dernier au bureau de l'organe délibérant par les députés provinciaux John Degbalassi. Les pétitionnaires reprochent plusieurs griefs au gouverneur dont le détournement des deniers publics, l'abus d'autorité, le conflit d'intérêts et les mépris des recommandations de l'Assemblée provinciale. Contacté, le gouverneur rejette toutes ces accusations. C'est en principe ce jeudi 30 que le gouverneur devrait répondre au cours d'une plénière à l'Assemblée provinciale. Affaire à suivre. Les regards sont tournés ce jeudi vers Paris où plusieurs acteurs politiques et humanitaires issus d'une cinquantaine de pays se réunissent depuis ce jeudi 30 octobre 2025 dans la capitale française. Ils font une autopsie de la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs afin de trouver des solutions. Cette initiative portée par la France et coprésidée par le Togo, il faut le souligner, vient en appui aux efforts diplomatiques déjà engagés à Doha et à Washington. Pour Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, cette conférence va resensibiliser la communauté internationale à l'urgence de mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations victimes des affres et de la guerre dans l'est du Congo et dans l'ensemble de la région. Il l'est dit au micro de Ronéline Tibonera.
Les efforts de financement dans le domaine humanitaire sont en baisse. On l'a vu notamment ici en RDC avec la fermeture de USAID, la fin de certains financements, mais ça ne concerne pas que les États-Unis. On se constate en matière d'aide humanitaire une certaine fatigue. Et pour remobiliser, il faut réexpliquer quelle est la situation. Et c'est pour ça que lors de la conférence de Paris vont intervenir des acteurs humanitaires, que ce soit des agences des Nations Unies, mais aussi des représentants de la société civile congolaise, pour expliquer la réalité du terrain. Ça, c'est la première partie de la conférence. L'autre partie, c'est de discuter, comme je l'ai dit, du droit international humanitaire. Parce qu'au-delà des financements, ce qui est important, c'est que les acteurs humanitaires puissent travailler librement, qu'il n'y ait pas d'entrave à leur action, qu'ils puissent accéder aux populations dans le besoin, et qu'il y ait des facilités d'exercice de leur mission, des facilités d'accès aux zones, tout ça dans le respect du droit international humanitaire.
Je vous rappelle que Rémi Maréchaux est à suivre comme invité à la fin de ce journal. Mais qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ce grand rendez-vous de Paris ? En tout cas, la RDC salue l'organisation de cette conférence de Paris, ce jeudi 30 octobre, par la France. Le ministre de la Communication et Médias, qui l'est dit, estime que cette conférence permettra, entre autres, de prendre en compte le volet humanitaire qui n'est pas repris dans les négociations de Washington et de Doha. Patrick Mouyaya confirme également que la RDC sera représentée au plus haut niveau par le président de la République et la ministre des Affaires étrangères. On écoute Patrick Mouyaya Katembwe au micro d'Alain Irung.
D'abord, nous saluons l'initiative prise par le président français de faire cette conférence humanitaire qui a pour vocation, dans ce que nous avons compris, de prendre en charge les questions qui ne figurent pas d'abord sur la table des discussions, que ce soit à Doha et à Washington. Vous savez que la RDC traverse la deuxième plus grande crise humanitaire d'Afrique et cette conférence a pour objectif principal justement de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à cette urgence humanitaire. Ce sera aussi l'occasion de soutenir la dynamique des négociations et des discussions en cours, parce que vous savez notamment que Dr Boulos y participera, mais c'est aussi une conférence qui offrira l'occasion de faire davantage des analyses sur les cadres d'intégration économique régionale, qui est le pendant économique de l'accord de Washington. Et donc, c'est un rendez-vous auquel nous allons répondre à plus haut niveau, le président de la République y prendra part, la ministre des Affaires étrangères aussi, pour s'assurer que nous avons partagé nos opinions et voir comment la communauté internationale pourra se mobiliser pour apporter la réponse humanitaire à cette crise qui décime cette partie de notre pays.
La problématique de l'insalubrité de la ville de Kinshasa est au centre du forum économique pour l'assainissement durable de la capitale de la RDC. Officiellement lancé ce mardi à Kinshasa, ces assises de 3 jours vont permettre aux acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans cette lutte, selon leurs diverses expertises, de proposer les solutions durables adaptées au contexte de la ville de Kinshasa. L'ambassade des Pays-Bas en RDC, qui accompagne cette initiative, a organisé un dîner ce mardi soir en vue de sensibiliser aussi bien l'opinion nationale qu'internationale. Jean-Désiré Kanyama, reportage.
Moi, je suis un Kinois, je suis à Kin, je vois comment notre ville est, c'est horrible.
Il s'agit là du cri d'alarme du directeur général de FOGEC, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, Laurent Mouzemba.
Mais comment est-ce qu'on peut avoir une ville si sale? Comment est-ce qu'on peut être incapable d'entretenir une ville?
Vint ensuite cette interpellation de l'ambassadrice adjointe des Pays-Bas en RDC, Jennifer Imperator.
En fait, l'assainissement, concrètement, c'est vous. C'est vous qui allez faire des partenariats, avoir des projets et programmes. Nous sommes là pour vous accompagner.
Aller plus loin, aller vers l'action individuelle et collective, c'est la thérapie proposée par UN Global Compact. Jessica Webe, directrice exécutive.
Car ce forum, il n'est pas seulement un espace de dialogue, c'est un appel à l'action. C'est une initiative à unir nos forces pour repenser l'assainissement comme un levier de développement, d'emploi et de dignité.
La représentante de la ville de Kinshasa a mis l'accent sur la participation citoyenne de ses fils et filles, Melia Bosiki.
La population que nous représentant ici est partie prenante du modèle que présente l'autorité. Mais il y a un exercice que nous devons faire, nous tous. C'est le changement de mentalité. Nous devons avoir les bons gestes. Ça veut dire lorsque tu bois ta bouteille d'eau quand tu l'as finie. S'il n'y a pas une poubelle autour de toi, tu mets dans ton sac. Il faut arrêter de jeter par terre.
En Ituri, la plateforme Terre sans pétrole a lancé mardi à Bounia et dans la plaine du lac Albert une campagne de sensibilisation aux conséquences du changement climatique. Parmi celles-ci, la baisse de la production agricole, les inondations et les dégâts matériels enregistrés dans plusieurs localités. Selon le secrétaire permanent de cette structure, cette campagne s'inscrit dans le cadre de la semaine du climat. Elle vise à impliquer la population dans la protection de l'environnement afin d'atténuer l'impact du réchauffement climatique sur les conditions de vie des habitants. Isaac Remoyope.
Les membres de la plateforme Terre sans pétrole sont déployés depuis mardi dans plusieurs endroits, notamment les marchés et les localités lacustres de Tchoumé et Kassigny, où la population subit déjà les conséquences de l'exploitation pétrolière en Ouganda. Parmi ces impacts, la baisse de la production des poissons, les changements de son goût, mais aussi la réduction de près de moitié des rendements agricoles dans des zones autrefois considérées comme les greniers de la province. Conséquence, les commerçants sont désormais contraints d'importer les produits agricoles des pays voisins. À cela s'ajoutent les inondations des rivières et du lac Albert qui provoquent d'importants dégâts matériels mais ont détruit champs dévastés. Face à ces défis, la plateforme appelle à un sursaut collectif et à une prise de conscience de la population, non seulement pour adopter des comportements responsables comme la plantation d'arbres ou la bonne gestion des déchets, mais aussi pour revendiquer ses droits face à certaines décisions gouvernementales jugées contraires aux normes internationales de protection de l'environnement. Dieudonné Kassonia, secrétaire permanent.
L'environnement nous appartient. Mais lorsque nous les gérons mal, l'environnement peut nous chasser. Tout le monde, on doit réfléchir comment arrêter ces menaces pour rétablir la paix dans l'environnement humain et les écosystèmes. Et de savoir réclamer ses droits.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotayi, a lancé hier mercredi une conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale organisée par la coopération allemande GIZ au centre financier de Kinshasa. L'objectif est d'assurer la traçabilité des transactions, lutter contre l'évasion fiscale et favoriser le retour des capitaux au pays conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont le président de la commission ECOFIN du Parlement, la vice-ministre des Finances, le vice-ministre du Budget, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, le chef des régies financières DGI, DGDA, DGRAD et les directeurs pays de la GIZ. On écoute le ministre des Finances dans ses propos recueillis par Vanessa Kongolo.
Les flux financiers illicites constituent aujourd'hui l'un des principaux freins à la mobilisation des ressources internes dans les économies africaines. Selon les études bien recensées, le continent perd chaque année près de 90 milliards de dollars américains, soit 3,7% de son PIB à cause des flux financiers illicites. Pour la République démocratique du Congo, ces pertes se traduisent notamment par des milliards de dollars qui échappent au budget national, limitant ainsi la capacité de l'État à financer les budgets nationaux, également les projets prioritaires dont la construction des écoles, hôpitaux, autres infrastructures de base, y compris les besoins sécuritaires dont le pays a besoin. Sous l'impulsion de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le gouvernement de la République démocratique du Congo a engagé plusieurs réformes afin de renforcer la transparence et lutter contre les flux financiers illicites. Parmi celles-ci, la stratégie nationale de lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme constitue un pilier fondamental de la protection du système financier national.
Actualité internationale.
Quel avenir pour le Sahara occidental? La question sera au cœur d'un vote crucial ce jeudi 30 octobre aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité doit adopter une résolution renouvelant le mandat de la MINURSO, la mission onusienne chargée depuis 1991 d'organiser un référendum d'autodétermination dans ces territoires disputés. Mais cette année, le texte présenté par les États-Unis a été profondément remanié. Il prévoit de faire du plan d'autonomie marocain de 2007 le point de départ d'une relance des négociations.
L'invité.
Paris, la capitale française, est depuis ce jeudi au cœur des discussions visant à sensibiliser davantage la communauté internationale à la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs. Cette initiative, portée conjointement par la France et les Togo, vient en appui au processus de paix en cours soutenu par les États-Unis et les Qatar. Pour en parler, nous recevons Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en RDC. Il nous explique les enjeux de cette rencontre au regard de la situation vécue dans l'est de la RDC et dans les pays voisins de la région. Rémi Maréchaux répond aux questions de Ronéline Tibonera.
Monsieur l'ambassadeur Rémi Maréchaux, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les principales motivations de la France dans l'organisation de cette conférence consacrée à la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs? Quels objectifs concrets Paris souhaite-t-il atteindre à travers cette initiative?
Merci. Par cette initiative, l'organisation de cette conférence, la France souhaite soutenir les efforts de médiation qui sont conduits aujourd'hui par les États-Unis et le Qatar. Et d'ailleurs, le docteur Boulos et le ministre Al-Khulaifi seront présents à cette conférence. L'objectif est de traiter une demande pressante qui n'est pas directement traitée par les processus de Washington et de Doha, qui est la situation humanitaire à l'est de la RDC, mais plus largement dans la région aussi en raison des déplacements de population. La France, par cette conférence, veut resensibiliser l'ensemble des partenaires de la RDC sur l'urgence de la situation humanitaire, obtenir des annonces de contributions financières, mais obtenir également le rappel du droit international humanitaire, afin d'assurer aux acteurs humanitaires la capacité de faire leur travail.
En quoi cette conférence est distincte-t-elle des autres initiatives régionales ou internationales déjà engagées pour répondre à la crise des Grands Lacs et qu'apporte-t-elle de nouveau en termes d'approche ou de partenariat?
Comme je l'ai dit dans votre première question, l'objectif, c'est pas du tout d'avoir une nouvelle initiative française. Notre objectif, c'est de soutenir les initiatives existantes, et comme je l'ai dit, le processus de Washington et le processus de Doha, en apportant un complément sur la situation humanitaire. C'est bien ça l'objectif. On a monté cette conférence en concertation avec les États-Unis et le Qatar, et ce qui est important, vous l'avez souligné vous-même, c'est que cette conférence est sous coprésidence du Togo, en qualité de médiateur de l'Union africaine et de la France.
Si c'est pas un secret, les Togo figurent parmi les co-organisateurs de cette conférence. Les choix traduit-il la volonté de la France de soutenir davantage les solutions africaines et la diplomatie régionale pour résoudre les crises humanitaires et sécuritaires à la manière africaine?
C'est pas soutenir davantage parce que le Togo participe déjà aux discussions à Washington, il participe déjà aux discussions à Doha. Donc le président Faure Gnassingbé était désigné comme médiateur par le président en exercice de l'Union africaine, le président angolais, João Lourenço. Et donc le Togo fait déjà partie de tous les efforts en cours. Il était logique que dans cet effort français qui se veut complémentaire, nous le fassions en étroite concertation avec le Togo.
De nombreuses organisations humanitaires sont aujourd'hui en train de déplorer la baisse des financements destinés aux populations vulnérables. Comment la France attend-elle mobiliser la communauté internationale autour d'une réponse collective et durable au-delà de ses propres efforts bilatéraux?
Alors, vous avez raison de dire que les efforts de financement dans le domaine humanitaire sont en baisse. On l'a vu notamment ici en RDC avec la fermeture de USAID, la fin de certains financements. Mais ça ne concerne pas que les États-Unis. On se constate en matière d'aide humanitaire une certaine fatigue. Et pour remobiliser, il faut réexpliquer quelle est la situation. Et c'est pour ça que lors de la conférence de Paris vont intervenir des acteurs humanitaires, que ce soit des agences des Nations Unies, mais aussi des représentants de la société civile congolaise, pour expliquer la réalité du terrain. Ça, c'est la première partie de la conférence. L'autre partie, c'est de discuter, comme je l'ai dit, du droit international humanitaire. Parce qu'au-delà des financements, ce qui est important, c'est que les acteurs humanitaires puissent travailler librement, qu'il n'y ait pas d'entrave à leur action, qu'ils puissent accéder aux populations dans le besoin et qu'il y ait des facilités d'exercice de leur mission, des facilités d'accès aux zones, tout ça dans le respect du droit international humanitaire.
Pour terminer, Monsieur l'Ambassadeur, la République démocratique du Congo est au cœur des enjeux humanitaires et sécuritaires dans les Grands Lacs. Quelle place la France souhaite-t-elle accorder à la RDC et sa société civile, surtout dans cette dynamique de recherche de solutions durables pour la stabilité et développement de la région?
Alors, il y a deux aspects dans votre question. Le premier, comme je l'ai dit, c'est que la société civile congolaise, donc des ONG congolaises, mais aussi la coordination d'ONG congolaises, des représentants de la société civile, sont associés, participeront directement à la réunion de Paris pour une action de plaidoyer, pour expliquer aux 50 pays et organisations internationales représentées quelle est la réalité de la situation. Au-delà, sur la recherche d'une solution durable, nos efforts sont un appui déterminé au processus de Washington et au processus de Doha. Donc on veut pas aller plus loin. Aller plus loin et faire autre chose serait une distraction des efforts en cours. On a toujours dit qu'il n'y avait pas de solution militaire à cette crise, que la solution devait être politique. Et aujourd'hui, l'option politique qui est sur la table, ce sont les efforts des États-Unis et du Qatar que nous entendons soutenir.
Monsieur l'ambassadeur Rémi Maréchaux, merci.
C'est moi qui vous remercie.